Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur soit glorifié en ce jour, en ce dimanche, de nous venons le louer, le célébrer. Aujourd'hui, je veux vous faire part ou partager rien d'autre que la parole de Dieu, car elle est la vérité. Elle ne passera jamais. Nous la retrouverons dans le ciel éternellement. Je vous fais cette lecture dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. » Amen. Nous ne sommes plus les créatures d'avant. Tout a changé, tout est devenu nouveau. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais seulement par grâce. Comme nous l'avons entendu dans cette lecture, ni la sagesse d'autrefois, ni la puissance que nous aurions pu avoir, ni la noblesse, si nous en avions, ni rien, aucun mérite, aucune œuvre des plus prestigieuses que nous aurions accomplies, rien de tout cela, donc, n'aurait pu nous faire mériter que Jésus nous sauve. Dieu nous a choisis, nous tous, tous les êtres humains du monde entier, nous sommes choisis dans son grand amour. Que nous ayons été faibles, que l'on nous méprise, que certains pensaient que nous n'avions aucune valeur. Dieu nous a aimés tels que nous étions, tels que nous sommes. Que nous ayons été pauvres ou que nous soyons pauvres encore aujourd'hui, riches, que nous soyons intelligents ou très élevés dans l'échelle sociale de notre monde, ou que rien du tout, de quelque nation que nous venions, tribu ou pays, quelle que soit notre provenance, d'où nous sommes sortis, de la valeur que nous estimaient les autres. Qu'importe tout cela, je vais vous déclarer la parole de Dieu que vous connaissez, que d'autres peut-être vont entendre aujourd'hui. Jean 3,16. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, nous sommes sauvés par le grand amour que Dieu a eu pour nous de toute l'éternité que Dieu est. Il nous aime. Alors je veux le dire avec force, mais il est dit que Dieu a prouvé son amour en ce que nous étions encore dans le péché, dans le mal. Christ est mort pour nous. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu nous a sauvés. Je voudrais que nous puissions réaliser, comprendre croire ou peut-être nous réveiller tout à nouveau dans cette foi où il nous a demandé de regarder à la croix où Jésus a souffert l'agonie, l'humiliation, la torture des clous et des épines, l'a crucifié pour nous, puni pour nos iniquités, afin de nous pardonner nos péchés et même l'impardonnable aux yeux de quiconque. La condamnation que Jésus a subie à la croix, elle devait tomber sur nous. Nous devions, après cette vie ici-bas, aller à la mort, mais aller en enfer, dans la damnation éternelle. Cependant, Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Avant de mourir sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Il l'a dit devant Dieu, son Père, mais il l'a dit aussi pour nous. Jésus a pardonné les péchés du monde entier. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus est mort pour les péchés afin de les pardonner au monde entier. La Bible dit également, nous sommes sauvés parfaitement. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. C'est par la foi en la crucifixion de Jésus sur la croix que nous sommes désormais réconciliés avec Dieu et pardonnés de tous nos péchés. Au moment où son sang coulait de son corps à la croix, Jésus nous a délivrés. Il nous a délivrés de toutes les ténèbres, de l'accusateur qu'est Satan. Nous sommes sauvés. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus est vivant. Il est vivant pour toujours. Et nous a donné la certitude que nous serons avec lui dans la gloire. Aujourd'hui, en lisant ce passage dont vous vous souvenez, Dieu a fait avec nous quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux. C'est que Jésus est devenu ce que personne ne pouvait devenir. L'être humain était déchu, nous n'arrivions à rien de bon qui pouvait être justifié devant Dieu. Mais Christ est venu, il est mort sur la croix pour nous, il est ressuscité, et une si grande gloire nous a été offerte à nous qui croyons. La parole de Dieu dit que maintenant, Christ est en nous. L'espérance de la gloire. Christ n'est pas seulement à côté ou marche devant nous, comme parfois nous le disons, mais Christ est en nous. Et voici, la parole de Dieu dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça veut dire notre vie d'autrefois, notre nature pécheresse, nous, ce que nous étions avant, nous avons été crucifiés avec Jésus. Et désormais, nous ne sommes plus esclaves du péché. Regardez-vous-même comme mort au péché. Vous lirez cela dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Et vous lirez Romains chapitre 8. lisez-le, prenez le temps. Je vous en prie, croyez-le. Vous allez voir ce que ça va changer dans votre vie. Il est dit que Christ habite dans notre cœur par la foi. C'est ça. Il faut le croire. Jésus habite dans notre cœur par la foi. Quand on regarde ce qu'était notre cœur avant d'avoir Jésus, vous le lirez dans Marc chapitre 7, verset 21, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses, toutes les impuretés, toutes les méchancetés, tout l'orgueil. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Il y a Jésus. Christ habite dans notre cœur par la foi. Et même l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit ceci que nous devons nous approprier. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Arrêtons-nous un instant à ces déclarations vraies. Ne sommes-nous pas passés parfois à côté d'une des plus prestigieuses vérités, réalités que nous devrions vivre? Ne vaudrait-il pas la peine de méditer et prier pour que le Seigneur nous donne de l'illumination à notre esprit, la révélation d'une si grande délivrance qui a valeur de nous amener toute la vie à vivre dans cette atmosphère d'obéissance au Seigneur et de victoire dans notre vie, parce que le Seigneur veut que nous vivions cette grande victoire. Je l'ai découvert dans le livre de l'Apocalypse, et il est dit que toujours à celui qui vaincra. Je dis, vaincre, c'est pas facile. C'est un combat. Mais c'est un combat gagné pour nous. Nous allons vaincre par rapport à ce que nous croyons, de ce que nous venons d'entendre de la parole de Dieu. Et il est dit, cette victoire, cette obéissance, cette atmosphère dans laquelle nous vivons parce que Jésus est en nous, fait que un jour, nous aurons part à l'arbre de vie. Il est dit, bien sûr, nous aurons la vie éternelle. À celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Vous savez, même les athlètes de haut niveau qui s'entraînent jusqu'à 8 heures ou 10 heures par jour pour pouvoir gagner une médaille d'or, mais n'est pas sûr de gagner. Mais pour nous, parce que nous avons la victoire en Jésus, nous aurons la couronne de vie, c'est sûr. Nous aurons un nom nouveau. Le Seigneur nous donnera, pendant le millénium, d'avoir autorité sur les nations. À celui qui vaincra, je confesserai, dit Jésus, son nom devant mon Père et les anges. À celui qui vaincra, dit Jésus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Quand vous pensez à cela, je crois que c'est tout. C'est inouï. Ça va au-delà de notre compréhension. C'est plus que du surréalisme. C'est même la vérité. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et je le ferai asseoir avec moi, dit Jésus, sur mon trône, à celui qui vaincra. Dans toutes ces paroles, c'est la parole de Dieu. Elle semble surréaliste et difficile même d'imaginer. Mais elles se réaliseront, c'est sûr, si nous le croyons. C'est déjà accompli par Jésus pour que nous puissions y parvenir. un instant, je refais la lecture où il est écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Jésus a été fait pour nous sagesse. La sagesse divine, en comparaison avec la sagesse des hommes, c'est pas possible. Nous pouvons nous cultiver, c'est pas interdit. Nous pouvons étudier, c'est pas interdit. Nous pouvons donner des preuves de grandes réalisations sur cette terre, jusqu'à que nous puissions faire dire au monde entier « Vous êtes un prodige ». Mais vous savez, un homme du temps passé, Salomon, a fait de grandes choses, et pourtant, il a dit « Avec toute la peine que j'ai prise sous le soleil, à quoi ça a servi ? Vanité des vanités, tout est poursuite du vent. » D'ailleurs, Jésus a dit « Que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Jésus a été fait sagesse pour nous donner sa sagesse. La sagesse de Jésus nous fait voir la vie avec une clairvoyance, disons, divine. On ne voit plus les choses comme tout le monde. C'est-à-dire, on a un but, on a un cap, et on s'y tient, et on le poursuit jusqu'au bout. C'est de vivre avec Christ, c'est de lui ressembler. Si Jésus n'était pas en nous, puisque Jésus est sagesse en nous. Voici la sagesse donc de ce monde. Il est écrit que la sagesse de ce monde, malgré qu'on soit même des fois cultivé, qu'on soit dans des postes de haute responsabilité, il est dit pourtant dans Jacques chapitre 3 et le verset 13 que la sagesse de ce monde, elle est diabolique. Elle est charnelle, elle est terrestre, elle est folie aux yeux de Dieu. Et elle se montre souvent par un zèle amer, un esprit de dispute, du désordre en tout genre, le désordre moral, les mœurs, toutes sortes de mauvaises actions, et j'en passe. Mais il est écrit la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, Christ est notre sagesse en nous, elle se démontre par une conduite avec douceur face à la violence dans notre monde. Cette sagesse se démontre par une conduite pure, ensuite pacifique, que de gens sont querelleurs, violent, cherche des disputes. La sagesse d'en haut, elle est pacifique, elle est modérée, elle est humble. Cette sagesse, elle est conciliante. On n'a pas envie de se battre contre la chair et le sang. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Cette sagesse qui est Christ en nous, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Elle est aussi cette sagesse qui nous permet de poursuivre la paix et de l'aimer, cette paix de Dieu, et de la procurer et de la poursuivre. Christ est aussi notre justice. Je vais vous dire, peut-être ça vous étonnera, mais Dieu ne nous demande plus rien. sa justice a été totalement satisfaite pour l'éternité par son Fils Jésus. Jésus nous a justifiés par son sang, le sang de Jésus, le sang innocent, le sang précieux de Jésus nous a justifiés. Ne la cherchez pas ailleurs, votre justice, mais c'est le sang de Jésus. Jésus s'est présenté à Dieu en revenant à la droite de Dieu après être mort sur la croix et ressuscité par Dieu. Il dit qu'il s'est présenté à Dieu, son Père, avec son propre sang. Notre justice est au ciel. Elle est éternelle. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Si vous croyez que Jésus a été juste toute sa vie, qu'il n'a jamais péché, qu'il a versé son sang pour nous justifier, alors nous sommes justice par Christ devant Dieu, et ceci pour toujours. Nous devons le croire. Jésus a été fait pour nous sanctification. La sanctification, être saint, nous le sommes. Jésus est notre sainteté. Vous serez saints car je suis saint. Soyez saints comme Dieu lui-même est saint. Impossible, dirons-nous, dans le doute. Mais pourtant, Jésus, en nous, est notre sainteté parfaite. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Mais écoutez, il ne veut pas celle que nous pourrions simuler avec des sacrifices, avec des pénitences, avec des mortifications, des comparaisons avec d'autres pour être mieux qu'autrui. Ce n'est pas cette sanctification que le Seigneur veut de nous. C'est inacceptable devant Dieu. Si nous le pratiquons en vue de mériter, ce n'est pas la sanctification, Dieu ne la veut pas celle-là. Mais Christ, Jésus, est notre sanctification. Et pour ce faire, il a mis en nous le Saint-Esprit qui est saint et qui, en venant habiter en nous, car nous devenons le temple du Saint-Esprit, nous sommes à jamais séparés du péché. Et nous sommes, par conséquent, remplis du Saint-Esprit, de la sainteté, et bien sûr, de tout ce que le Saint-Esprit met en nous, l'amour de Dieu. Christ est notre sanctification, et nous voulons le croire et le vivre. Alléluia. Christ, enfin, est notre rédemption. Il dit, c'est lui, Jésus, qui nous a rachetés. Nous étions vendus au péché, au marché des esclaves. Nous étions à vendre toujours. Et de maître en maître qui nous achetait, nous faisions toujours plus le mal. Nous devenions de plus en plus méchants. Nous souffrions. Nous étions possédés, liés. Nous avions des addictions. Nous étions tenus dans l'esclavage par Satan. Et nous allions souffrir souvent, longtemps sur la terre et mourir jusqu'à aller dans la damnation éternelle. Notre Rédempteur nous a rachetés. Et je vous lis ce qui est écrit dans Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang. C'est possible, ça? Ça paraît incroyable. Il nous a même rendus capables. Il nous a délivrés. Il nous a rachetés. Mais ce n'est pas pour l'avenir seulement, c'est déjà fait. Nous sommes transférés dans le royaume de Jésus. Il est en nous, lui, notre Rédempteur. Il est écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 24, « Nous avons été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Et je dirais encore, ne revenez pas au mal d'autrefois, ne revenez pas à votre ancien maître qui était Satan. Vous avez été racheté à un grand prix. Avons-nous compris à quelle estimation Dieu notre Père nous a évalués? Oui, au prix d'avoir donné son Fils éternel pour rançon et faire de nous des cohéritiers avec Jésus et des âmes sauvées pour vivre au ciel éternellement. Je termine. Louez le Seigneur, adorez-le, rendez-lui grâce. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, bénissez-le. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, pour le louer, l'adorer, chanter les cantiques nouveaux de l'agneau, lorsque je serai avec lui dans le ciel. Et disons au monde cette bonne nouvelle, si vous le croyez, ce que vous venez d'entendre, et prions pour qu'ils le croient et qu'ils soient eux aussi en possession de cette grande grâce de Dieu. Vivons et pratiquons notre foi afin que le monde arrive à nous demander « Mais quelle est la raison de votre espérance ?» Écoutez, si nous croyons, peuple de la foi, si nous croyons ces promesses scellées par Jésus-Christ, en qui est le oui dans tout ce que vous venez d'entendre de ces promesses, alors soyez enthousiastes pour Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Faites-lui confiance en tous les temps, voire de se réveiller et se dire « Est-ce que je ne suis pas passé à côté d'une si grande découverte ?» Alors, il faudrait se résoudre à faire une relecture de la parole de Dieu qui nous affirme ce que vous venez d'entendre. Méditez-la, croyez-la, cette parole, cette promesse de Jésus. Intégrez-la dans votre vie et persévérez coûte que coûte jusqu'au jour éternel où le Seigneur nous dira « Entre, car tu as cru à ce que j'avais fait pour toi et regarde ce que tu as ici selon ta foi quand tu étais ici-bas. Entre dans mon ciel de gloire, je t'aime, dira Jésus pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. »